Vous écoutez IDFM, il est 14h.
Audrey Lamoli du CSA 95, Centre de Services aux Associations du Val-d'Oise. Je suis ravie de vous retrouver sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée entièrement aux associations du Val-d'Oise et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois l'association sarcelloise ACDPA, comprendre Association Citoyenne pour le Développement de la Personnalité Artistique, créée en 1982 et qui nous offre un autre regard sur la banlieue. Elle réunit essentiellement des jeunes entre 11 et 19 ans autour du chant, de la danse, de la musique et du théâtre et sillonne la France, la Tunisie et même les États-Unis depuis 30 ans grâce au succès de sa comédie musicale Teenager. Deux Olympia et plusieurs tournées plus tard, ACDPA est une association qui n'oublie pas d'où elle vient et c'est chaque semaine à Sarcelles qu'elle recrute, forme et met en lumière ados et adultes pour révéler leur potentiel d'artiste. Pour nous parler de cette association qui a déjà fait chanter et danser plus de 2000 enfants et ados, j'accueille cet après-midi son fondateur, Jean-Luc Salmon, chanteur, auteur, compositeur, musicien et directeur artistique, ainsi que Véronika Kedzierski, ancienne de la troupe Teenager et aujourd'hui encadrante, professeure de danse pour l'association. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Audrey.
Bienvenue dans l'émission. Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Jean-Luc et Véronika nous présenteront plus concrètement l'activité d'ACDPA. Et en dernière partie d'émission, nous reviendrons sur un événement à venir important pour l'association, celui de participer à l'exposition d'envergure nationale Trésor des banlieues. Alors tout d'abord, Jean-Luc, Véronika, je vous propose de parler un petit peu de vous avant de parler de l'association. Ça vous convient ?
Ah mais oui. Tout à fait.
On y va. Alors, commencez par peut-être vous présenter ce que vous faites, votre parcours en dehors d'ACDPA. Qui a envie de commencer ? Véronika ?
Oui. Alors, Véronika, j'ai 31 ans, je suis maman de deux petites filles de 8 et 10 ans. Donc, j'ai fait des études, je me suis arrêtée au bac il y a donc maintenant 12 ans. J'ai créé mon entreprise, je suis auto-entrepreneur dans l'esthétique et j'ai repris mes études récemment, des études de biologie. Et j'ai rencontré donc Jean-Luc à 9 ans dans le cadre des teenagers. Il recrutait les enfants de notre école pour... À ce moment-là, c'était pour enregistrer un CD. Et donc voilà, donc on s'est rencontrés à 9 ans. J'ai fait l'aventure teenager jusqu'à mes 16 ans. On s'est retrouvés cet été pour recommencer à travailler ensemble et repartir dans l'aventure teenager.
Donc vous vous occupez dans l'association, on va la présenter très vite, mais dans l'association, vous occupez particulièrement de la danse et du chant ?
C'est ça.
Oui.
Alors, moi, je suis surtout un produit teenager. Donc, chant, danse, instrument de musique. En fait, teenager, c'est surtout l'ouverture sur... c'est voilà, l'absence de limites, l'absence de frontières. J'ai pas de...
Vous en gardez quel souvenir de... Parce que vous avez été teenager pendant combien de temps ?
6 ans.
6 ans.
6 ans. C'est surtout voilà, cette ouverture. Donc, par exemple, j'ai pas de parcours... conservatoire ou ballet, enfin voilà. Mais grâce à Teenager, j'ai touché à tout. J'ai toujours continué à faire de la danse, à chanter, à monter tel ou tel projet, à faire des scènes avec des copines. En fait, c'est vraiment sortir de toutes ces choses très conventionnelles, constitutionnelles, etc., pour se développer au travers de l'art.
Vous êtes formée sur le terrain, quoi. Formation Teenager.
Voilà. Et d'accord. Donc, dans ma vie, j'ai été très vite à mon compte. Je suis très vite sortie du système scolaire pour y re-rentrer assez facilement. En fait, ça m'a vraiment permis d'avoir une vie assez atypique. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à en parler parce que j'ai pas un parcours très conventionnel, du coup. Et je pense que Teenager a été vraiment un soutien pour cette vie.
Pour révéler aussi votre âme artistique.
C'est ça, au travers de, voilà, au travers de l'art.
Et ça vous vient d'où cette passion pour le chant et la danse? Vous rappelez
de
votre
Jean-Luc
premier souvenir?
Hein, j'étais petite. Hein.
Mais avant Jean-Luc, vous
alors avant
vous
Jean-Luc,
pas,
avant
pas
Jean-Luc, j'étais hyper timide, très 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 maladive. Moi, j'étais une petite fille qui ne levait pas la main en classe pour aller aux toilettes, qui préférait se mettre à pleurer. Enfin, c'était une catastrophe. Et donc, j'étais loin d'imaginer que j'avais une quelconque fibre artistique. C'est au travers de Jean-Luc et des teenagers que...
Quand il est venu vous proposer cette aventure, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui? Vous auriez pu dire, bah non, je suis trop timide.
Je crois que j'ai rien dit.
On a décidé pour vous.
J'ai chantonné, il m'a entendu chantonner. Et puis il m'a dit qu'il fallait que je chantonne et que je continue à chantonner jusqu'à chanter. Et puis voilà, je me suis profondément transformée au travers de l'aventure également.
Et aujourd'hui, vous êtes toujours aussi timide. Je pense qu'on ne perd jamais sa timidité, mais peut-être que Teenager, ça vous a aussi permis de la surmonter pour, je ne sais pas, quand on fait du spectacle, j'imagine qu'on doit prendre un peu sur soi, on apprend des petites choses pour être moins timide.
Alors, je la ressens, la timidité, hein. Mais personne ne me croit quand je dis que je suis timide. Donc, je pense avoir
dépassé. Donc, c'est bien réussi,
dépassé.
Alors.
Voilà.
D'accord. Et alors, vous nous avez dit que vous aviez deux enfants, deux filles.
Oui.
Est-ce que vous leur avez transmis un peu votre passion pour la danse, le chant? Est-ce qu'elles font partie de Teenager ou pas encore? Ou elles veulent pas en entendre parler?
Alors, les filles commencent là. Elles découvrent Teenager. Mais elles ont fait de la scène, du spectacle. En fait, j'ai pas ce truc de... Pour moi, il ne faut pas aller au conservatoire pour faire de la musique. Il ne faut pas faire... Enfin, j'ai toujours monté plein de choses. Elles sont parties avec moi en colonie de vacances, par exemple, il y a 4 ans, où j'ai animé l'atelier comédie musicale. Donc, j'ai monté des spectacles pendant 3 semaines. Je l'ai fait de façon... Enfin, sans me poser de questions, en fait. Et donc, les filles, à ce moment-là, faisaient déjà partie de l'aventure. Je les ai emmenées avec moi en colonie. Voilà, on a ce côté ouvert. Je me rends même plus compte, mais j'ai
naturel,
des retours,
quoi.
Ouais.
Enfin,
chez moi, il y a des instruments. Elle joue, elle chante. On monte des choses, on fait des choses régulièrement. Et j'ai des retours d'ailleurs de l'école qui me dit, on sent qu'elles sont ouvertes, qu'elles sont intéressantes, qu'elles sont. Alors il y a l'absence de télé. J'explique aussi beaucoup par ça. Mais il y a aussi ce côté, voilà, je peux vivre en dehors du cadre de ce système très rigide et j'y vais, quoi. Et donc, oui, elles sont profondément comme ça.
Merci, Véronica. Jean-Luc, alors votre parcours, bonjour.
Alors, avant de vous parler de mon parcours, je voudrais vous faire écouter la voix qu'avait Véronica quand elle est arrivée chez moi, parce que maintenant, c'est une jeune femme de 30 ans qui chante tout super bien. Et quand elle est arrivée, elle chantait comme ça.
Ils n'ont pas voulu être des rois, des rois non plus, et pas des soldats. Mais ils voulaient vivre, ouvrir leur maison, fenêtres et livres, rires et passions.
Ouvrez-nous vos portes, laissez-nous rêver, que le vent n'apporte que...
Voilà, très ça, belle voix.
Ouais. Et aujourd'hui, c'est encore mieux, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de travail et puis elle a mûri. Et moi, je n'étais pas du tout dans ce genre de truc au départ. Moi, au début, je viens du rock celtique. Mes copains, c'était Alan Stivell, Gilles Serva, et puis après, quand je suis arrivé à Paris, Renaud, Souchon, Le Forestier, etc. Donc, j'étais très loin et des banlieues et de ce genre de musique. Je faisais ça au début.
Thank you.
château de Tianrusco. Au château de Tianrusco. Il n'y a ripaille, il n'y a fesnos. En Bretagne, Tianrusco. Il n'y a ripaille, il n'y a fesnos. En Bretagne, Tianrusco.
Alors là, Jean-Luc, c'est vous qui chantez ?
Voilà, c'est moi qui chante, c'est les années 70-75. Je suis un peu à la remorque, entre guillemets, de Stivell, qui est la grande star bretonne de l'époque. Puis je monte à Paris, et ensuite, je fais une vie différente. Je signe un contrat avec RCA, je rencontre Souchon, Renaud, etc. Et les années avant, quand j'étais étudiant, j'ai fait des études un peu bizarres. J'étais dans un lycée hôtelier, puis après j'ai fait philo à Paris. Je suis resté en 68 à Paris, je ne suis pas décroché. Et en gros, j'avais rencontré Brel, Brassens, tous les mecs, et Nougaro, qui est devenu un petit peu mon... Je lui montrais mes chansons, et un jour il m'a dit « Mon petit, casse ta guitare, tu n'avanceras jamais, mets-toi vite au piano. » Alors je me suis mis au piano. Et puis, j'ai commencé à évoluer comme ça. J'ai fait mon premier album où j'ai ramené un peu toutes les chansons, enfin les quelques chansons bretonnes que j'avais, plus des chansons françaises qui étaient assez rock, agressives, sur l'histoire de Yann Palach, sur l'histoire de Gabriel Russier, enfin, des trucs qui étaient déjà très, très engagés, quoi. Et puis, ça, pendant 10 ans, j'ai fait ça. J'ai fait plusieurs albums chez eux. Je me suis fait virer en 85, 6. Et en 89, mon régisseur m'a dit, j'ai trouvé une ville qui voudrait monter une comédie avec tes chansons. Je lui ai dit, bon, Neuilly, le conservatoire. Il m'a dit, non, Sarcelles, un foyer de jeunes travailleurs. Alors, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, comment est-ce que tu crois qu'un chanteur français, éminemment français, élevé par Nougaro, peut intéresser des gamins des banlieues, qui sont de toutes les couleurs? Il m'a dit, viens les voir, et on verra après. J'ai été les voir, on devait faire un spectacle, 3 spectacles, 3 mois de préparation, point final. Et après, on est parti en tournée. Et les gosses, quand on est rentrés, m'ont dit, nous, qu'est-ce qu'on devient? Et là, ma vie a changé. Et donc, Teenager, qui devait durer 3 mois, dure depuis 30 ans.
Et alors, d'où vous vient cet amour de la musique là? Si on revient aux racines, vous êtes d'une famille d'artistes,
non,
ou vous êtes
tout.
L'OVNI?
Je suis l'OVNI. Je suis le vilain petit canard. Mon père est officier de marine. Ma mère était fille de général, machin, etc. Mais j'ai été complètement dévoyé en 62, quand mes parents sont partis à La Havane, à Cuba, à la fin de la Révolution, où là, j'ai vu un milicien avec une mitraillette sur une épaule et une guitare sur l'autre qui draguait ma grande sœur tous les soirs à la maison. Et là, je suis tombé dedans, quoi. Je veux dire, c'était extraordinaire. Vous étiez dans la rue, vous pouviez dire à une fille, tu es très jolie, sans vous faire traiter de je sais pas quoi. C'était complètement différent comme genre de vie. J'ai retrouvé ça en 81 sur la place de la Bastille, quand Mitterrand a été élu président de la République. Tout le monde se parlait. Il y avait un truc que je n'avais connu qu'à Cuba auparavant. Mon meilleur ami était russe, ma petite copine de l'époque était argentine. Et ensuite, il y avait des gosses de toutes les couleurs. Et moi, je ne connaissais pas les couleurs. La première fois que j'ai rencontré un black, un noir, c'était en Jamaïque. Je mesurais 1m20. Le mec, il devait mesurer 2m70, dans ma tête, 1m90 peut-être. Il m'a regardé, il m'a fait un grand sourire, il m'a pris dans ses bras, il m'a fait sauter. Et après, je me suis dit, mais moi, j'aime toutes les blagues de la Terre, quoi. Enfin, j'aurais pu avoir le contraire, hein. Ça aurait pu être la trouille. Mais là, j'ai trouvé ce mec génial. Et depuis, je ne supporte plus, je ne vois pratiquement plus les différences de couleurs. Enfin, je veux dire, je les vois, oui, mais j'y pense jamais. Et je ne supporterai pas un monde monochrome. Ni dans la tête, ni dans le cœur.
Donc c'est vos voyages,
c'est mes
les
voyages,
rencontres avec les personnes qui vous ont donné envie de faire de la musique, et puis avec tout le monde.
Exactement.
Et d'ailleurs, quand on s'intéresse un petit peu à votre association, la première chose que vous évoquez peut-être après ou au même niveau que la comédie musicale, c'est changer le regard sur la banlieue et de rapprocher les générations. On sent que ça, c'est quelque chose qui vous est
qui me tient
cher dans la création de cette association. Vous dites, voilà, j'ai créé cette association un peu par opportunité, ou en tout cas, on m'a dit, bah voilà, ça tombait, ça correspondait au fait que vous avez, enfin voilà, vous
j'ai
aviez quitté
dire,
en tout cas.
Ouais, j'ai tendance à dire que j'ai pas fait exprès, quoi. Voilà. Après, moi, je suis tombé amoureux du désert en allant en Tunisie. Donc, je voulais montrer le désert à mes gamins de Sarcelles. J'avais monté la même expérience à Gafsa, qui est dans le sud de la Tunisie. J'étais ébloui par tout ça, quoi. Et donc, j'ai voulu amener les gamins de Gafsa en France. Donc, on a fait une tournée franco-tunisienne. On a terminé à l'Olympia. C'était la deuxième fois qu'on faisait l'Olympia. Et puis après... on a eu un coup de bol, il y a un mec qui nous a appelé en disant « Nous, je suis Claude et on a monté une association identique à la vôtre à Boston. On essaye de trouver des partenaires sur la France, ça vous intéresse ?» Moi, j'ai dit « Oui, bien sûr. » Et c'est comme ça qu'on est parti deux fois aux États-Unis. Enfin, c'est un truc complètement irrationnel. Et ce qui est encore plus irrationnel, c'est de voir que 30 ans après, on a toujours les mêmes difficultés. Je vous l'ai expliqué hors antenne, avec parfois les parents qui ne comprennent pas
ce
qu'on
fait. On va s'en reparler de ça. Hein. C'est important, je pense, de reparler des difficultés
si vous
aussi
voulez,
que vous avez rencontrées.
Mais en tout cas, ce qui, moi, me fascine, c'est que 30 ans après, il y a des gamins qui ont eu 9 ans chez moi, la petite Véronica, qui maintenant est une très jolie grande jeune femme, et les gamines qu'elles ont, là, mais c'est, pour moi, c'est une merveille de bosser avec elles. Je me dis, j'ai la chance de pouvoir avoir ces rapports affectueux, mais qui passent par la musique, bien sûr, parce que tout, pour moi, passe par la musique.
Et alors, vous avez décidé de monter une comédie musicale donc, qui s'appelle Teenager.
Tout à fait.
C'est vous qui l'avez écrite.
Oui.
Et est-ce que c'est la première fois que vous faisiez ça?
Une comédie musicale? Oui. Ah oui, complètement.
D'accord.
Ah oui, puisque c'était une demande de la ville, au départ. C'est un travail de commande. Et j'imaginais absolument pas que ça pouvait perdurer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la comédie, le titre est toujours le même, mais tout a changé. Parce que vous vivez tout seul avec votre histoire d'auteur-compositeur. Ben, vous chantez votre femme, vos premiers divorces, vos premiers gamins, etc. Puis après, ben, votre première rupture. Et puis après, ça tourne un peu en rond. C'est le problème des gens comme nous qui devions à l'époque faire un album par an, vous vous rendez compte. Et le fait de rencontrer ces gosses-là qui m'ouvrent leur cœur, qui me racontent leur vie, ça m'a fait voyager dans le monde entier et ça m'a donné tellement d'inspiration pour faire à peu près toutes les chansons qui leur ressemblent aujourd'hui et qui m'ont inspiré. Finalement, j'ai tendance à dire que je suis un peu leur Postaghalène, leur transistor, leur crayon, leur plume d'oie, comme vous voulez.
Et leur donc, révélateur de talent aussi.
Aussi, ouais, je pense que j'ai un vrai talent. C'est peut-être pas, je sais pas si c'est la musique ou l'écriture, mais en tout cas, j'arrive à trouver très très vite les talents des autres.
Et il y a une comédie musicale, tous les deux, Véronica, Jean-Luc, que vous aimez particulièrement, qui vous inspire un petit peu pour faire le parallèle avec Teenager ou...
Le parallèle, c'est trop prétentieux, mais depuis que je suis gamin, c'est West Side Story, bien sûr.
D'accord. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait ACDPA juste après avoir écouté un extrait de votre comédie musicale intitulée « Jamais assez » que je vous laisse nous présenter, Jean-Luc.
C'est Véronica est coupable. Véronica est coupable. Moi, j'ai perdu un petit copain, un ami de cœur, quand il avait 19 ans, je crois, il s'est fait tuer en moto. Je n'ai jamais pu m'en remettre. Et puis, en l'an 2000, Véronica a perdu son papa. Et là, il y a eu un double bang. Et donc, j'ai écrit cette chanson à ce moment-là.
On écoute « Jamais assez » sur IDFM Radio Anguin.
Photo de toi, tu étais sur ta mobilette, Tu as encore les cheveux longs, 16 ou 17 ans peut-être. Nathalie porte un blouson blanc. Tu jurais qu'elle serait ta femme. C'était juste avant le drame. Aujourd'hui tu aurais 30 ans.
On ne dit jamais assez je t'aime aux gens quand on les aime. On ne dit jamais assez je t'aime à un enfant. Nos disparus vivent encore dans nos cœurs et dans nos gènes. Les chanter encore, c'est encore les rendre vivants.
J'ai retrouvé une photo de toi, Bamako. Le bébé dans tes bras, c'est maman. Et derrière toi, il y a un vieux vélo.
J'ai retrouvé une photo de toi dans les rues de Berlin. Tu es un soldat. Franchement, pour moi, cela n'évoque absolument rien.
J'ai retrouvé des dessins de toi que papa avait fait.
J'ai retrouvé des lettres de toi, des lettres d'avant, quand je n'étais même pas né.
On ne dit jamais assez, je t'aime aux gens quand on les aime. On ne dit jamais assez, je t'aime à un enfant. Nos disparus vivent encore dans nos cœurs et dans nos gènes. Les chanter encore, c'est encore les rendre vivants.
Parler de ces trucs, c'est pas mon trip. C'est même pas la musique que je kiffe. Seulement, quand tu t'es fait chuter pour de bon, c'est à l'intérieur de moi-même que je suis béton.
Est-ce que si c'était mon tour, quelqu'un viendrait chanter pour moi? Baby, je te jure, c'était de l'amour. Mais ça, c'est sûr, je le savais pas.
Et est-ce qu'il faut s'éloigner de tout pour rester encore libre et rebelle? Ou vivre avec un canon pointé sur la tempe et dans le cœur? Le canon de Rachel Bell.
Quand on les aime, on ne dit jamais assez. Je t'aime à un enfant. Nos disparus vivent encore et dans nos cœurs et dans nos gènes. Les chanter encore, c'est encore les rendre vivants. On ne dit jamais assez. Je t'aime aux gens quand on les aime. On ne dit jamais assez. Je t'aime à un enfant.
Vous êtes sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux associations où nous recevons cet après-midi Jean-Luc Salmon, fondateur de l'association ACDPA, ainsi que Véronika Kedzierski, professeur de danse pour l'association. Alors, on n'arrête pas de parler de comédie musicale, de teenager. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu de quoi ça parle, cette comédie musicale?
Oui, c'est très simple. Ce sont deux gamins qui ont 12-13 ans qui décident de faire une fugue dans une ville hypothétique avec des banlieues. Voilà, avec un port en plus. Il y a une nuit avec un port. Et ils décident d'aller jusqu'au port pendant la nuit, quoi. Donc ils partent tous les deux et puis ils rencontrent des grands, ils rencontrent des vieux, ils rencontrent des gens, ils leur posent des questions et au départ il y a un petit musulman, un petit catholique et ils se tirent la bourre en disant ouais mais moi ça me dérangerait pas d'aller dans ton église, moi non plus ça me dérangerait pas à la mosquée d'aller à la mosquée pour voir, sauf que toi t'y vas plus, Enas, et pourquoi tu l'as pas cassé ton ramadan, etc. Ils font des trucs de gamins, quoi. Et puis ensuite ils rencontrent des grands et ils disent vous allez où? Ben on va voir. On va voir Gabriel qui est en train de jouer sur le port. Gabriel, en l'occurrence, c'est moi. Alors, je joue avec mes musiciens et il y a un des grands qui dit « Mais moi, je le connais, Gabriel, on va voir si vous racontez des bêtises ou pas. » Et donc, ils vont vers le port et ils se racontent leur vie. Donc, quand on est sur le port et quand on n'est pas noir, on n'a pas d'amis, enfin, un tas d'histoires comme ça, on se rencontre et ils me disent « Bah, et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» Je leur réponds Et tout ça pour finir en disant, bon, bah, écoutez, c'est bien d'avoir fait une belle balade, mais il vaudrait mieux que vous rentriez avant le lever du soleil, parce que si vos parents se réveillent avant que vous soyez rentrés, on va avoir plein de problèmes, quoi. Bon, c'est tout à fait banal comme histoire, ça n'a pas de... je dirais, il y a beaucoup de gags, il y a beaucoup de machins marrants pour faire rire les gens, parce que les chansons sont un petit peu comme celles que vous avez entendues, sont quand même sensibles, souvent.
Donc c'est un prétexte, l'histoire est un prétexte pour parler de choses plus, d'enjeux plus importants dans notre société, qui fait qu'on vit ensemble, quoi.
Ouais. Et Véro, là-dedans, elle chantait une chanson que je n'avais pas prévu de vous faire écouter, qui est Rouge, qui est une chanson sur la drogue, mais ça... Bon, pas grave. Et voilà. Et on aborde à peu près tous les sujets. La mort, la mort par la drogue, tous ces trucs-là, qui sont des sujets graves, mais on le fait avec l'œil des enfants.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Traiter de sujets graves, c'est à partir de 11 ans, normalement, que vous commencez à ouvrir la comédie musicale. À 11 ans, quand on parle de drogue, même parfois de religion, de mort, c'est perçu comment ? Comment on s'y prend quand on parle de cette comédie musicale pour embarquer les enfants et j'imagine aussi un peu les parents derrière, du coup, pour faire adhérer sur ce type d'enjeu de thématiques, comment par exemple on parle de rouge, comment on chante rouge avec des enfants pour la première fois?
Bah, on le chante. De toute façon, les enfants ont cruellement besoin de communiquer. Aujourd'hui, on est dans un monde où on communique un peu plus. Pour moi, il y a 10 ans, de chanter, c'était une façon de parler.
D'accord. Et vous parlez des thématiques aussi, du sens de la chanson? Parce que des fois, on chante sans forcément bien en cerner l'histoire.
Déjà, les
chansons
naissent... moi, qui ai eu un parcours sur plusieurs années, déjà, les chansons naissent du vécu de Jean-Luc. Enfin, on vit... on a une espèce de... Teenager, c'est une famille. On passe des années ensemble et on fait des tournées. Donc, les chansons, quand elles naissent, quand je reviens Donc, ils sont partis en Tunisie en tournée. Donc, j'étais restée parce que mon papa était à l'hôpital et qu'il revient avec sa chanson, il n'a pas besoin de me l'expliquer. Mmh. J'ai même pas posé de questions. Donc, on a tous aussi... les chansons naissent au travers de nous, comme l'a expliqué Jean-Luc. Donc, il n'y a pas besoin, en fait.
Et alors,
ceux qui les reprennent derrière... alors, Jean-Luc, quand il est... Avant de leur faire chanter, pour leur faire chanter, déjà, de toute façon, il leur explique ce qu'ils disent. Et puis l'idée, c'est le petit speech qui revient constamment, c'est « Je veux que quand tu me chantes la chanson, on ait l'impression que c'est toi qui l'as écrite. » Et puis il raconte l'histoire à l'enfant, etc. Il l'amène vers... je sais pas comment... C'est toi qui diras comment tu choisis les gens qui chantent les chansons, mais généralement, la chanson colle à la personne.
C'est du sur-mesure, quoi.
Voilà.
Et alors justement, comment on choisit qui va chanter, qui va faire telle ou telle scène?
Eh bien, en fait, je rencontre les gosses par leur regard et par leur voix. C'est comme ça que je les connais. Et la voix, c'est la carte d'identité la plus importante. J'en profite pour donner un autre titre qui n'était pas prévu, mais qui est pas mal. C'est « Maman, où t'as eu ton fils ?» C'est bien ça. Et oui, donc, si vous voulez, moi, je vois les gosses, quoi. Les gosses, quand je les regarde dans les yeux et que je joue avec eux du piano, ils me donnent leur cœur, ils me donnent leur voix, ils me donnent leur regard. Et je tombe, en général, je leur dis pas, mais je tombe. Et là, je fais une expérience, aujourd'hui, avec des gamins d'un centre aéré, pour la journée de droit de l'enfant, où ce sont les mômes qui trouvent les textes, qui me sortent les phrases. J'ai trouvé une petite mélodie pour le refrain. C'est extraordinaire, les questions qu'ils posent et les remarques qu'ils font. Et Véro était petite quand elle est rentrée. Elle était effectivement très timide, mais elle avait un potentiel de charisme qui était hallucinant, qu'elle a toujours d'ailleurs. Et donc, évidemment, j'avais envie d'écrire pour elle quand son papa est mort. Enfin, je veux dire, c'est des choses comme ça, quoi. Et moi, je suis profondément reconnaissant à tous ces gosses de m'avoir accepté dans leur existence et de m'avoir inspiré autant de chansons.
Et alors, est-ce qu'il faut savoir déjà quand même un peu chanter, danser, jouer la comédie pour faire partie de la troupe?
Non.
Vous avez dit, j'écoute leur voix. Est-ce que Véronica disait, moi je chantonnais au début
Alors, non, pas du tout. Mais c'est vrai que je prends quand même que des gamins qui sont relativement accordés. Un gamin qui n'arrive pas à chanter du tout sur le piano, on ne peut rien faire. Du moins, pas tout de suite.
Vérifier un peu l'harmonie, la mélodie
L'accord. Est-ce que quand je joue en do, le gosse est capable de faire le clair de la lune en chantant en do, en ré, pareil. Donc ça, en général, là, surtout les gamins que j'ai actuellement, ils sont tous pratiquement accordés. C'est rare qu'ils ne soient pas accordés. Au niveau du rythme, c'est un peu plus compliqué, mais vous ne pouvez pas apprendre à un gamin à jouer de la batterie s'il n'a pas le sens du rythme. En revanche, un gamin qui a vraiment le sens du rythme, vous le mettez derrière une batterie, vous lui dites premier temps sur le pied, deuxième temps sur le charlet fermé, le home va faire tang, tch, tang, tch, tang, tch, sans bouger du tout. Sans bouger, ni en avancer, ni reculer. Et ça, on peut s'en servir. Alors qu'un gosse qui a fait 10 ans de conservatoire de batterie et qui avance systématiquement dans la mesure, je ne peux rien en faire.
Et alors justement, il y a combien d'enfants ou combien d'adhérents dans
adhérents,
votre association?
Adhérents, il y en a environ 90, mais il y a beaucoup de gens qui nous supportent. Des gamins proprement dit, dernière répétition, j'en avais 13. J'en ai entre 5 et 15-16 selon les week-ends et selon les périodes.
Parce que très concrètement, ça prend quelle forme à CDPA? C'est-à-dire qu'il y a un créneau, quel jour, quelle heure?
Concrètement, alors voilà. Donc concrètement, tous les samedis après-midi, à la Maison des Jeunes et de la Culture de Sarcelles, nous avons une répétition entre 14h30 et 18h. Donc tous les gosses qui veulent venir peuvent venir. Ceux qui sont déjà là, on travaille sur le programme qu'on va produire toute l'année. Ensuite, on garde les gamins, quand ils le veulent, sur toutes les vacances scolaires, ou la moitié des vacances scolaires. Là, la semaine prochaine, on va faire un stage et on va faire de la chanson tous les jours, mais aussi je vais leur apprendre le cerf-volant pilotable. Parce que très souvent, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu comme si j'avais des gosses, c'est leur montrer la vie, leur montrer ce que j'aime. Alors, on fait ça, on va souvent dans des musées. Il y a 10 jours, 8 jours, on était à Giverny. Vous connaissez Giverny?
Oui.
C'est prodigieux. Et les mômes étaient en bail. Là, on était 13 à Giverny. Donc ça dépend vraiment au début, quand on a démarré Teenager, il y avait 30 gamins et 10 accompagnateurs. Mais c'était vraiment trop compliqué. Alors quand on fait des gros trucs comme des Olympiades, des choses comme ça, ce qui arrive une fois tous les 10 ans ou tous les 15 ans, on récupère les anciens, les nouveaux, on monte des grosses troupes. Mais en règle générale, on travaille entre 8 et 15 mômes.
Et vous êtes tous les deux les seuls intervenants? Il y a quelqu'un d'autre?
On est les seuls permanents et très souvent, il y en a d'autres qui viennent avec nous, soit des anciens qui chantent, soit qui jouent de la guitare, soit qui jouent du piano, peu importe, et qui viennent nous donner des coups de main sur des gros spectacles.
Alors justement, comment on arrive à faire l'Olympia? Vous nous l'avez un peu expliqué. Enfin, l'Olympia, c'est quand même... Vous n'avez expliqué Boston, mais l'Olympia, comment...
Ouais, l'Olympia, c'est un...
C'est votre réseau?
Non, pas du tout. J'étais un petit peu boosté, drivé par Jean-Michel Boris, qui était le patron de l'Olympia pendant des années. Je lui ai montré Teenager au départ. Il m'a dit, ouais, ça, Jean-Luc, vous tenez un truc, lâchez pas. Et puis, tout le monde s'est fichu de moi en me disant, si tu vas, et Jean-Luc, les Teenagers, ta carrière, elle est foutue. Jean-Luc Salon, ça n'existera jamais. Tu vas te pourrir avec des gamins des banlieues. Et en rigolant, il me disait « Alors, quand est-ce que tu fais l'Olympia ? Quand est-ce que tu fais l'Olympia ?» etc. Ça m'a vraiment énervé. Et j'ai vu Jean-Michel, je lui ai dit « Vous croyez qu'on peut le faire ?» Mais au niveau technique, ouais. Vous êtes prêts ? Et on y va. On y avait 3 villes, on y va. Et on avait vendu 350 places. C'est grand l'Olympia, hein, ça fait 2000 places. Et puis, le lundi matin, on a eu, non pas l'empereur, sa femme et le petit prince, mais on a eu Libé qui est venu nous voir répéter. Le mardi, on a eu Le Monde. Le mercredi, on a eu France Info toute la journée. Et le jeudi, il y avait 1950 personnes sur le boulevard des Capucines. On était totalement dépassés par les événements.
Salle comble.
Salle comble. Première Olympia, les gens debout qui voulaient arracher les gosses à la fin. Enfin, c'était vraiment c'était incroyable. Et le deuxième Olympia, ça a été fait avec les sponsors qui avaient envie de refaire un gros programme comme ça. Donc, il y avait Air France, l'aéroport, Fondation de France, etc. On s'est tous mis ensemble et on a réussi un deuxième Olympia comme ça.
Et alors, il y a eu ces deux Olympias. On a évoqué les tournées. Alors, aux États-Unis, je crois en Tunisie également, oui. Mais vous faites aussi d'autres villes en France.
Oui, a priori, on tourne tous les ans. Ça va de, on va dire, 4-5 concerts à, le plus qu'on ait fait, c'est 23. À 23, on est tous exsangues à la fin. Hein, c'est épouvantable. Parce qu'il faut amener tout le matériel, il y a le camion. Parce que les gamins apprennent aussi, dans l'aventure teenager, à câbler le matériel.
Toute la partie technique et logistique.
Toute la partie, voilà, à apprendre à sonoriser. Comment est-ce qu'on travaille entre le gain et le power, la puissance, bon, et le volume, ça y est, j'y suis. Et donc, ils apprennent à monter le matériel, à ranger le matériel, ils apprennent à vivre en communauté, parfois à quatre dans la même chambre, ben oui, mais chez eux, c'est un peu pareil, souvent. Ils apprennent à rencontrer des gens qui ne sont pas des banlieues, et donc à leur sourire, parce qu'au départ, quand on arrive, vous imaginez, j'arrive dans un village vacances ou dans une petite ville où il n'y a que des blancs, ça existe. Et d'ailleurs, à ce moment, il faut que je fasse gaffe, parce que dès que je vois un blague, j'ai envie de lui dire « Attends, toi, reviens ici, il n'est pas à moi, c'est bon. » quand ils arrivent, tout le monde a peur. Et quand ils repartent, les gens me disent « Mais c'est ça les banlieues, c'est pas du tout ce qu'on nous dit dans les médias. » Je lui dis « Oui, mais vous ne vivez pas dans les banlieues, c'est aussi ça. C'est bien sûr toutes les mêmes galères que vous avez dans les provinces. » Mais c'est aussi des gamins qui sont tous ensemble, parfois, pour faire autre chose. Et quand ils partent, je considère que j'ai réussi mon coup. Quand les gosses me disent « Ah, ils partent déjà, on ne peut pas les garder un peu. On ne peut pas garder des contacts et tout. » Enfin, voilà.
Oui, donc vous travaillez vraiment aussi sur l'ouverture culturelle auprès des enfants de teenagers.
Bien sûr.
Mais aussi auprès de toutes les personnes que vous croisez dans
absolument,
le cadre de vos tournées.
Absolument.
Alors, les parents de ces enfants, ils vous laissent partir en tournée facilement, il y a une participation financière. Est-ce qu'ils viennent avec vous ?
Alors, parfois, les parents viennent avec nous. Ça dépend des périodes. De toute façon, c'est toujours très compliqué. Parce que pour déléguer un peu d'affection, un peu d'autorité et tout, c'est très compliqué. Quelles que soient les ethnies, quelles que soient les religions et tout, c'est toujours « qu'est-ce qu'il va faire avec mon gosse ?» Même si on est 15, hein, et s'il y a 3 ans encadrants, c'est pas grave. C'est surtout ce qui les panique, les parents, c'est s'ils nous échappent, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que quand j'arrive, je suis un peu Dieu le Père. Les gosses s'émancipent, et puis au bout de 4-5 jours, 4-5 ans, quelques mois, les mômes commencent à avoir une certaine autonomie, autonomie, et du coup les parents ne trouvent pas ça bien, c'est normal. Tout ça est tout à fait banal. C'est-à-dire, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je raconte, c'est comme ça partout, dans toutes les associations, où vous avez des gamins et des grands. En plus, il y a le mixage des couleurs, le mixage des générations. Là, on a été aidé, par exemple, par la DILCRA pour un autre titre que je vais vous faire écouter, qui est Enfant d'Israël, hein, le fameux numéro 4 qui est sur ce magnifique album. Et il y a des parents qui sont venus voir en disant, tu sais, nous, on est une religion. Je ne vais pas dire laquelle, ce n'est pas la peine. Alors je dis, oui, mais moi, je m'en fiche complètement. Vous savez, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Il fait, oui, mais nous, on n'aime pas les homosexuels. J'ai dit, attends, vos gosses, ils ont 12 ans. Je ne vais pas leur parler d'homosexualité à 12 ans. Ah oui, mais la DILRA, c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme juif et LGBT, etc. Je dis, mais attendez, on n'est pas là-dedans. Vous avez les textes. Les gosses, ils chantent les textes avant de nos sponsors. Et bizarrement, ces gosses ne sont pas revenus cette année.
Oui, donc ça fait partie des difficultés que vous pouvez avoir au quotidien aussi de faire adhérer, de convaincre. Et alors, cette comédie musicale qui a 30 ans, j'imagine qu'elle a évolué depuis dans ses textes, peut-être dans sa musique. Véronica, est-ce que vous participez à faire évoluer aussi cette comédie musicale ? Comment elle évolue ? Qu'est-ce qui a changé ?
Ben, un exemple, parce qu'elle ne va pas vous répondre. Mais j'ai un titre qui dit « Clean Teenager, t'as besoin de tout ton souffle ». Pardon. « Clean Teenager, t'as besoin de tout ton souffle pour rapper avec nous ». Et là, elle me dit « Attends, rap, aujourd'hui on s'en fout, dis plutôt pour chanter ». Parce que c'est un rap, ce truc. Hein. Elle me dit « Pour chanter avec nous, c'est mieux ». Je me dis « Ouais, elle a raison. Avec l'évolution du temps, elle a raison ». Et les mômes, très souvent, me disent « Attends, ce mot-là, par exemple, Ziva, ça se dit plus
». Oui.
Voilà. Donc je change, évidemment. Moi, j'écoute tout ce qu'ils me disent et tous les textes.
Pour rester dans l'air du temps et
Pour que ça leur ressemble au maximum. Oui. Parce qu'évidemment, si je commence à leur parler de Marguerite Yourcenar, on n'est pas arrivé. Mais il s'avère que c'est vrai qu'ils sont quand même très futés et que très souvent, ils me disent « Attends, ce mot-là, je ne le sens pas. Est-ce qu'on pourrait mettre ça à la place ?» etc.
Alors, je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté un nouvel extrait de Teenager. Vous en parliez juste à l'instant, donc on peut écouter Enfant d'Israël.
Oui, parce que justement, c'est un des titres qu'on avait donné à la DILRA pour voir si ça les intéressait. Ils ont dit oui, et donc on a continué à défendre ce truc-là. Ça ne parle pas spécialement d'Israël, mais ça parle de tout ça.
Alors, on écoute Enfant d'Israël sur IDFM Radio Anguin. À tout de suite.
D'Espagne ou d'Angleterre, ne croyez jamais ceux qui vous disent avoir raison de vous appeler autrement qu'enfant de la terre, que les frontières jamais ne soient dans votre horizon de vous appeler autrement.
Dans l'émission La Parole aux associations avec Jean-Luc et Véronica de l'association ACDPA. Alors, on a écouté Enfants d'Israël et je crois, Jean-Luc, que vous aviez envie qu'on écoute tous ensemble Maman, où tu as eu ton fils ?
Oui, parce que c'est l'évolution entre les petits. Là, on a une ex-petite qui est devenue grande. Et là, c'est un ado qui a 17 ans à l'époque, avec lequel on fait de la musique. Et à un moment, il y a un petit drame, entre guillemets, dans l'équipe de grands. Il y a une gamine qui se retrouve enceinte. Et évidemment, c'est très embêtant, quoi. Et le gamin dit, moi, je m'en fous, c'est mon père qui va s'en occuper. La petite, on va la déplacer. Et là, on se retrouve exactement dans les problèmes des ados des banlieues. Où est-ce que tu... Voilà. Et cette chanson-là, donc, était un peu différente parce qu'elle correspond à la partie un peu... hip-hop, un peu rap, de ce qu'on fait.
Alors, on écoute un extrait.
Mmh.
ministre. Maman, où t'as eu ton fils? Dans un riad, chez un touriste. Maman, où t'as eu ton fils? Derrière l'hôtel, après l'office.
Alors justement, ACDPA, c'est des enfants, c'est des ados, on vient de l'entendre. Est-ce qu'il y a des adultes aussi qui reviennent comme Véronica, mais aussi des parents qui découvrent votre association et qui disent « moi aussi j'ai envie de chanter ».
Oui, ouais. Alors on a Xavier là actuellement, qui est le papa d'une de nos leaders qui vient de l'extérieur de Sarcelles, Marianne qui a 15 ans. Pardon, Marianne qui a 15 ans. Et donc Xavier et son papa, il fait un peu de guitare, je l'ai rencontré cet été, on a fait un atelier, je ne vous ai pas parlé de ça. Parfois l'été quand on part, on fait des ateliers qu'on ouvre aux gamins des provinces ou d'autres villes. Et là c'était un atelier qui était magnifique parce que la petite en question, elle connaissait les teenagers depuis 8 ans et là elle est rentrée dans l'atelier, elle a fait le truc, elle a fait le job et son papa m'a dit, et moi j'ai dit, toi, tu fais quoi? Je peux jouer un peu de guitare. Mais viens, viens. Et donc, il a joué avec nous de la guitare. C'était super. Du coup, on a gardé Marianne qui va nous rejoindre ici à Sarcelles pour les vacances. Et ça arrive assez régulièrement qu'on ait des parents qui rentrent avec nous dans le groupe et qui nous aident soit sur la technique, soit en chantant, soit en dansant.
Parce que Marianne, elle habite pas en Île-de-France.
Elle habite à la limite de l'Île-de-France, mais dans le sud de Paris.
Et elle vient en vacances à Sarcelles pour teenager.
Exactement. Et attendez, j'en ai un qui arrive de Belgique pour les vacances à Sarcelles.
Vous inversez la tendance. Souvent, on a envie de partir de l'Île-de-France. Vous les faites venir pour les vacances. C'est une belle réussite.
Oui, parce que c'est aussi intéressant pour eux. Quand on est à Sarcelles, même si les gamins de Sarcelles ne le savent pas, il y a Paris à côté. Et évidemment, la première chose que je fais avec les gamins, c'est de les amener à Paris.
Alors, vous souhaitiez nous parler de votre participation. Un événement qui a lieu, non pas à Paris, mais en Île-de-France, à Gennevilliers, qui s'appelle Trésor des banlieues. Je crois que c'est une expo qui a une envergure nationale.
Oui.
C'est sur 3000 mètres carrés à Gennevilliers.
Oui.
Et qui se donne pour objectif de rapprocher les artistes et les habitants, de les faire se rencontrer et proposer au public l'art sous toutes ses formes.
C'est exactement ça.
Alors, pourquoi vous allez dans cette exposition? Est-ce que c'est la première fois?
Bien sûr, parce que c'est la première expo de ce genre qui est faite à Gennevilliers. C'est une expo absolument fabuleuse. Moi, je suis un amoureux de la peinture, donc je vous conseille à tous ceux qui aiment la peinture d'aller voir, parce que vous allez avoir des vrais caillebottes, carrément. Vous avez vraiment des peintres super importants, quoi. Et puis, l'exposition est super bien foutue, c'est très joli, c'est vraiment très bien. Et comme ils voulaient ouvrir cet énorme espace à d'autres sorts d'art, ils nous ont invités, nous, en tant que Sarcellois artistes, à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de la musique et de la chanson, pendant une heure, deux fois de suite d'ailleurs, une fois le 26 octobre et une fois le 30 octobre, où on va aller défendre...
30 novembre.
On va aller défendre un peu ce que font les mômes, aussi bien au niveau de la poésie que de la musique, que de l'art... théâtral.
Et à quelle heure c'est?
C'est à 15h pour nous.
Donc c'est, on rappelle les dates, donc c'est à 15h. Le lieu?
Le lieu, c'est le Hall Grésillon.
D'accord, à Gennevilliers.
À Gennevilliers, oui.
Donc et à 15h, le 30 novembre et le
26 octobre et 30 novembre.
Et donc vous allez chanter, montrer un extrait finalement de la comédie musicale.
Un extrait de la comédie. Je vais montrer aussi les différents... groupe ou individu qui travaille. Là, j'ai un petit qui a 28 ans qui est en train de faire un CD, un vrai CD, et je voudrais bien qu'il chante un ou deux trucs avec nous, Véro, et puis les petits qui arrivent, quoi.
Et alors, pourquoi c'est important pour vous aussi de... On a beaucoup parlé de la comédie musicale, vous avez évoqué un petit peu des ateliers écriture que vous faites aussi à côté de votre exercice de comédie musicale. Je crois que vous allez dans les centres de loisirs.
Oui, non, en fait, on va ramener ça ce qui est à la vérité. C'est qu'il y a un des adjoints à la mairie qui m'a demandé, est-ce que tu pourrais me faire écrire par des gosses une chanson sur les droits de l'enfant. Alors, j'ai demandé qu'il me montre ce que c'était que les droits de l'enfant. Et après, j'ai dit, bon, je veux bien, mais avec le contrôle de la mairie et des animateurs qui sont avec moi. Parce que là, ça va très bien. Là, tous les mots qui sont sortis, c'est magnifique. ils ont un talent incroyable, ces gosses. Mais à un moment, ils m'ont dit, ouais, le droit de s'habiller comme on veut. Et là, je me suis dit, stop, là, on ne le fait pas, celui-là. Parce que si j'ai des familles maghrébines, ça va faire des gros problèmes.
Alors, comment vous
enfin,
y prenez...
Maghrébines, musulmanes, plutôt. Maghreb n'a rien à voir là-dedans. Non, rien. Alors, je leur ai dit, bah, écoutez, d'accord, ça, oui.
Donc, vous allez dans une classe, enfin, dans un... là,
alors,
c'est un centre de loisirs.
C'est un centre asie, je les vois tous les mercredis matin, et puis on travaille. On travaille, ils sortent des bouts de texte, on les met en place, on trouve un petit refrain, on les fait chanter le refrain, ça leur plaît beaucoup. Quand ils en ont marre, je leur fais chanter une autre chanson, ils s'amusent, ils se défoulent, on revient sur les textes, et je vous promets que ça va être un joli produit, puisqu'on parle de produit pour tout maintenant, je suis moi-même un produit, et pour les droits de la journée des droits de l'enfant, le 20 octobre, à Sarcelles.
Le 20 octobre à Sarcelles.
Voilà.
Donc là, parents, habitants vont venir voir...
Tout le monde, bien sûr. Il n'y a pas que nous, hein, c'est une grande manifestation.
Et c'est la première fois que vous faites cet exercice-là, qu'on enfin, vous commande
comme
cette
ça,
animation
oui,
de groupe
oui,
aussi
oui, oui. Comme ça, oui. Internationale d'écriture, c'est la première fois que je dis oui. En général, je dis non, parce que je ne pense pas que tous les poètes, tous les enfants soient poètes, bien que. Non, je, voilà. Et, mais ce que j'ai toujours fait, c'est aider des jeunes qui écrivaient des chansons à aller plus loin dans leur écriture. À avancer dans leur écriture, exactement comme Nougaro a pu le faire avec moi, ou des gens comme ça. Mais après, aller mettre mon grain de sel dans ce qu'ils ont envie d'écrire, pas du tout. Par exemple, là, avec les gamins, à part le refrain où j'ai mis un peu une musique, je les ai laissés complètement écrire tous les textes. Je n'ai pas voulu du tout mettre mon grain de sel. Et à un moment, j'ai dit, est-ce que tu ne crois pas que si on met ce verbe-là avant, ça va mieux sonner ? Ils m'ont dit oui, ou ils m'ont dit non. J'ai respecté, et voilà, quoi.
D'accord, donc c'est aussi apprendre à écrire.
Oui,
à poser des mots sur une mélodie.
Apprendre à poser des mots sur une mélodie, absolument. Là, on fait un travail de diction qui est énorme. Leur apprendre aussi, le refrain, ça fait « Je ne suis qu'un enfant, laissez-moi devenir, laissez-moi devenir. Je ne suis qu'un enfant, laissez-moi devenir grand, laissez-moi devenir grand. » Et juste pour placer le devenir, on a passé une demi-heure là-dessus. Pour qu'ils sont, ils sont 6 ou 7 ou 8, pour qu'ils fassent tous ensemble devenir, 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 comme si vous allez faire du rap.
Diction aussi, rythme.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Et alors, de quoi vous avez besoin, Jean-Luc, Véronica, aujourd'hui pour...
De relève, de jeunes, de bénévoles et surtout d'ados. D'ados qui ont entre 12 et 18 ans, qui ont entendu votre émission, qui se sont dit, tiens, peut-être ça pourrait nous intéresser. Je leur apprends aussi quand même les bases de la guitare, du piano, de la batterie.
On apprend aussi à jouer d'un instrument.
Oui, absolument. Absolument.
D'accord, donc on apprend à jouer d'un instrument, voilà. Chanter,
on
danser.
On apprend à jouer en chantant, en s'amusant, on apprend sans se rendre compte qu'on apprend.
Et ça, Véronica, vous êtes particulièrement sur ça, sur la danse, le
moi,
corps, sur scène.
Je suis complètement uniquement sur ça.
Non,
ça
vrai.
A mieux marché sur
excuse-moi,
moi.
Excuse-moi, que... mais tu t'es remis à la guitare.
Oui, mais... Avec Teenager, pas avec
oui.
Le conservatoire,
oui,
juste les notes, machin. Je ne lis pas la musique et je joue, et je chante. Sans... Enfin, voilà.
Et il y a beaucoup de danse dans la comédie musicale ? Ou c'est plutôt comment on se déplace aussi sur scène ? Comment on...
Il y a, oui, toutes les chansons qui s'y prêtent,
qui bougent,
on les danse. Hein.
Ouais.
Oui.
Et c'est
après,
quel type de danse ?
Les accompagnements. Oh, bah, c'est varié, ça va du. Ça peut être de la salsa, du hip-hop, enfin, c'est très, très varié.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment justement on peut vous contacter ? Jean-Luc disait, j'ai besoin d'adhérents, j'ai besoin de jeunes, d'ados. Comment on peut vous contacter ?
Alors, donc, on est tous les samedis à la Maison des Jeunes et de la Culture de Sarcelles. Ok. Et moi, il y a un téléphone de l'association qui est le 06 82 95 10 16, je répète, 06 82 95 10 16. Et j'accepte de voir tous les gamins, tous les jeunes qui ont envie de participer à l'aventure.
Donc on peut venir toquer à la porte et puis vous rencontrer
voilà.
Et voir si...
Vous avez un site pour nous découvrir qui est acdpa.net. acdpa.net. Il y a une adresse qui est acdpa@sfr.fr. Et de toute façon, toutes les obédiences, tous les gens, tous les enfants et accessoirement adultes qui ont des gamins peuvent venir nous rencontrer et voir s'ils peuvent amener leur pièce à cet édifice que l'on reconstruit tout le temps.
Et avant de rendre l'antenne, on écoute une dernière fois Teenager. Non, Teenager, oui. Jean-Luc, je vous laisse peut-être nous dire ce qu'on va écouter.
On est toujours sur les titres « Maman, où t'as eu ton fils ?» peut-être. Auquel cas, on peut continuer un peu là-dessus en avançant un petit peu sur l'intro qu'on a commencé à faire. Si on peut. Si on peut, oui, je sais.
La la cool, au kifayatan, au hippie badoui. Ne sont plus que des mots, leur sens me semble vide. J'écrivais nos chansons, Redéier, fais gaffe ça. Ici je n'écris plus, ça servirait à quoi? Ce qui se passe ici ne nous ressemble pas. Quand nous cherchions ensemble dans les livres et les pierres, en oubliant nos civilisations guerrières, c'est vous qui m'enseignez le respect des anciens. Sur aucun cheveu blanc, on ne lève la main. Ce qui se passe ici ne nous ressemble en rien. Et tous ces fous d'Allah qui égorgent vos frères, comme nous les Indiens, ces chrétiens de misère. C'est le balancier de l'histoire qui revient. Civilisation de honte qui marque nos destins. Cette idée du futur ne nous ressemble en rien. Fanatique en tout genre qu'engendre la misère. Ramène nos plus bas instincts à la lumière.
Alors ça, Jean-Luc, c'était pas Teenager comme on l'a annoncé juste avant.
Si, c'est toujours Teenager, mais c'est la face B de ce titre « Maman, où t'as eu ton fils ?» Et c'est un truc qu'on a écrit à l'époque des attentats de Charlie Hebdo.
C'était un plaisir de vous recevoir, Jean-Luc, Véronica. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de succès encore et des tournées. Un grand merci, comme toujours, à Philippe pour la réalisation de cette émission. Quant à nous, nous nous retrouvons vendredi 8 novembre, même heure, je recevrai l'association Alternative Network. C'était Audrey Lamouly sur IDFM Radio Anguin. Bon week-end à tous.